Comme directeur général du Fonds monétaire international, je crois que de vrais progrès ont été accomplis.
Vous y croyez pas à la reprise ?
Non, personnellement non, pas du tout.
Oui, nous allons avoir une hausse de chômage continue.
Donc je pense que le gouvernement a plutôt montré ces derniers temps qu'il était plutôt en faveur des entreprises et on espère que ça va durer.
Tous ensemble, tous ensemble ! Ouais ! Ouais ! Tous ensemble, tous ensemble ! Ouais !
Écho d'ici, écho d'ailleurs, Frédéric Gara.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, écho d'ailleurs. Nous allons parler aujourd'hui agriculture et sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Émission spéciale enregistrée à Paris, au siège de l'OCDE, où se tenait cette semaine une réunion du RPCA, qui est le réseau de prévention des crises alimentaires. Réunion sous l'égide de la CDAO, de l'UEMOA, et qui regroupe également le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que le CILS, Comité Permanent Inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel. Le CILS, dont le secrétaire exécutif Jimmy Adoum est notre invité aujourd'hui. Nous entendrons tout au long de cette émission des représentants du ROPA et du RBM, porte-voix des agriculteurs et des éleveurs dans cette région, des sociétés africaines ou non africaines comme la burkinabé Simone Zundi ou Emmanuel Faber, vice-président du groupe Danone, et également un certain nombre d'experts sur cette question de l'agriculture et de la sécurité alimentaire en Afrique de l'Ouest. Bonjour Jimmy Adoum.
Bonjour RFI.
Vous êtes tchadien, secrétaire exécutif donc du CILS, dont le siège est à Ouaga, au Burkina Faso, Ouaga 2000 exactement, quartier résidentiel, créé en septembre 73, le CILS, à la suite des grandes sécheresses qui ont frappé le Sahel dans le courant des années 70, qui compte 13 États membres, c'est bien cela. Et le CILS a différentes missions d'observation, d'abord de la situation alimentaire en Afrique de l'Ouest, de formation d'ingénieurs ou de techniciens agricoles, d'agronomes, et de prévention d'éventuelles crise alimentaire, c'est ça en résumé le rôle du CILS?
Oui, en résumé, depuis 1973, ces missions sont justement la recherche dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la lutte contre la désertification, le problème lié à l'accès au marché, la maîtrise de l'eau.
Avec quels moyens? Vous avez un réseau d'observateurs un peu partout dans
le CILS, en somme, le CILS, il a le secrétariat exécutif est basé à Ouaga, le centre régional Agrimed est basé à Niamey, l'Institut du Sahel est basé à Bamako, et le CILS, qui fait 13 pays, a un représentant qu'on appelle le secrétaire permanent du comité national du CILS dans chaque pays.
Représentant qui est chargé d'observer dans chaque pays donc la situation alimentaire.
Oui, justement, c'est des représentants qui servent d'interface entre les pays et le CILS et qui portent à la connaissance du CILS s'il y a des problèmes particuliers auxquels le CILS doit s'attaquer.
Remédier. Quels sont les moyens justement d'observation d'une crise ou d'une potentielle crise alimentaire ou de problèmes de nutrition dans telle ou telle zone des pays adhérents? Comment est-ce qu'on s'y prend?
Disons, le système du CILS repose sur les systèmes nationaux de collecte et d'analyse de données, mais il y a un cadre harmonisé qui envoie à des équipes chaque fois 2-3 mois dans chaque pays, les pays membres du CILS, qui font la collecte et l'analyse de données, qui nous donnent plus ou moins une idée sur les tendances. Et à partir de ces tendances-là, on vient formuler des stratégies, comme nous avons fait au courant du RPCA.
Justement, ces tendances ou ces chiffres, est-ce qu'ils sont toujours justes? Est-ce qu'ils sont toujours exacts? Il y a beaucoup de débats sur la pertinence des analyses statistiques en Afrique. Est-ce que ce sont des données fiables pour tirer des analyses?
Oui, ces données sont fiables dans la mesure où certains pays ont des systèmes robustes de collecte et d'analyse. Et les techniciens sont formés par le CILS, justement, allant dans ce sens-là. Mais je dois ici ajouter, profiter de l'occasion pour dire que la collecte et l'analyse de données, c'est de la souveraineté nationale. Les pays, nous encourageons les pays, nous les supportons, à la recherche des fonds, à la mise sur pied de ces mécanismes pour qu'ils puissent collecter et valider ces données-là afin de mettre fin à cette tentative de dire que les données ne sont pas fiables. Donc, ce qui se passe en ce moment dans ce processus-là, c'est que le CILS envoie des équipes sur le terrain. Avec les nationaux, il y a un comité qui va sur le terrain collecter et analyser les données. Les équipes nationales elles-mêmes font des analyses, et c'est pourquoi vous voyez dans la salle, quand le CILS a présenté le résultat, les pays se sont levés pour dire « moi je confirme les chiffres du CILS et ça réduit la variance et moi ça m'encourage, ça m'enchante ».
Alors justement Jimmy Adoum, cette réunion du RPCA, du réseau de prévention des crises alimentaires, a permis donc de dresser cette semaine un état des lieux de la saison 2013-2014 en matière de récolte céréalière. Résultat, 54 millions de tonnes produites pour cette période en zone CEDEAO, ce qui marque un progrès, une légère progression. Mais en revanche, un peu plus de 19 millions de tonnes pour les pays du Sahel, c'est-à-dire une chute de moins 12% de la production, une chute consécutive, ça fait déjà 2 ans que c'est le cas. Est-ce qu'il y a matière à s'inquiéter pour la zone sahélienne?
Oui, il y a matière à s'inquiéter et il y a aussi matière à réflexion. Le Sahel, c'est-à-dire les pays du Sahel, les 6 pays du front, hein, le Mali, la Mauritanie, le Burkina Faso, le Niger, le Tchad et le Sénégal, si vous avez remarqué la chute du céréal, c'est qu'effectivement les pluies se raréfient. Et donc c'est le changement climatique qui introduit cette variance. Ça veut dire aussi qu'on doit aller vers d'autres sources d'eau. On va vers l'irrigation. Et à ce sujet, je dois introduire récemment la tenue du forum de haut niveau sur l'irrigation qui dit que effectivement, compte tenu de la raréfaction des pluies, il faudrait qu'on aille puiser dans le sous-sol pour chercher cette eau. Il y a de l'eau. Et l'Afrique, au moins c'est les 6 pays du front, maîtrise moins de 3% en irrigation. Donc compte tenu du fait que le changement climatique est là, compte tenu du fait qu'on ne produit pas assez pour s'autosuffire, ce programme-là va nous aider à concevoir des programmes d'irrigation pour combler ces déficits.
Le manque d'eau, c'est une chose, mais il y a aussi des crises politiques qu'on a connues au Mali, qu'on vit encore en RCA, donc avec un impact ou des conséquences sur le Tchad voisin. Ça aussi, ça peut perturber une récolte céréalière.
Oui, bien sûr. Vous savez, ces crises-là envoient des milliers et des milliards de personnes dans les pays voisins. Tout d'un coup, ça met une pression extrêmement importante sur les faibles ressources déjà disponibles au niveau de l'alimentation. On ne peut pas prévoir les crises dans leurs pays respectifs, mais par rapport à la production, si un pays arrive à produire en abondance pour s'autosuffire, stocker, et en cas de besoin des réfugiés qui arrivent, au moins dans un premier temps, les pays peuvent pouvoir répondre à ces crises.
Jimmy Adom, je vous propose, au sujet de ces résultats un peu mitigés en matière de production céréalière, d'écouter les explications de l'Apodini Marc Atouga, qui est le commissaire de la CEDEAO en charge justement de l'agriculture et de l'environnement.
Trois choses l'expliquent. D'abord, du point de vue naturel, nous sommes dans une région où le changement climatique a entraîné beaucoup de changements. Et il y a aussi, sur le plan économique, les pays de l'Afrique de l'Ouest n'échangent pas beaucoup entre eux. Le commerce intra-régional est faible et nous dépendons beaucoup de l'extérieur dans une certaine mesure. Et lorsque l'extérieur a des problèmes, nous avons des problèmes. Et ça aussi, c'est ce qui se passe. Nos économies sont un peu extraverties et nous produisons pour l'extérieur plus que nous ne produisons pour nous-mêmes. Nous avons beaucoup de produits de rente que nous exportons plutôt que d'intensifier nos productions alimentaires parfois. Et je pense que ce n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi notre politique agricole pour rôle de croître la productivité et la production agricole afin de faire face aux besoins des populations de la sous-région.
Et ceci dit, on est toujours à des rendements en moyenne, à une tonne à l'hectare, voire parfois moins d'une tonne à l'hectare, ce qui est très très faible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ces choses-là?
Mais il y a trois choses. Vous savez quelles sont les choses qui rentrent dans le rendement? Il y a les engrais, les pesticides et bien sûr les semences, qui sont le pivot, les semences. Il faut que tout ceci-là soit approvisionné aux producteurs dans le timing respecté. Deuxièmement, il faut aussi que les gens aient des marchés sécurisés. Vous ne croyez pas que je vais intensifier ma production si je vais, après avoir cette production-là, sous les bras, sans pouvoir la liquider.
Et par rapport à ce débouché sur le marché que vous avez évoqué tout à l'heure, la perspective de signer des accords de partenariat économique prochainement avec l'Union européenne risque ou pourrait augmenter les exportations européennes de céréales ou de produits alimentaires vers l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que là aussi, ça ne va pas poser des difficultés aux producteurs ouest-africains?
C'est vrai dans une certaine mesure. Mais si nous ne nous frottons pas aussi à la compétition, comment allons-nous devenir compétitifs? Il faut quelque part que nous accélérions les échanges entre nous. Si la base est solide, si nous échangeons entre nous à près de 60-70% comme vous le faites dans l'Union européenne, j'espère que la compétition sera dure pour les autres. C'est parce que nous n'échangeons pas entre nous et donc nous ne créons pas assez de marché pour nos propres produits. Qu'est-ce que nous ferons en agriculture pour l'Union européenne? Nos produits ne sont pas en compétition avec les vôtres. Ce que nous consommons chez nous, nous le produisons chez nous. Le manioc, vous ne l'avez pas. L'igname, vous ne l'avez pas.
Céréales, farine.
Oui, mais alors ça dépend aussi de quel type d'éducation nous donnons aux enfants. Si nous habituons nos enfants à manger du blé, alors que nous ne produisons pas le blé, nous avons des problèmes. Il faut que quelque part, nos habitudes nutritionnelles, que nous les développions et que nous continuions à consommer ce que nous produisons. Si nous sommes friands de ce que les autres produisent, nous ouvrons le marché pour eux.
Et vous avez le sentiment qu'on prend ce chemin-là, qu'on prend cette production africaine pour une consommation africaine ?
Je ne sais pas, mais moi, j'ai aujourd'hui 62 ans. Et je vous dis que chaque jour, je dois manger de la pâte de mil ou la pâte de maïs. Ce n'est pas l'Europe qui me donne le maïs ou le mil. C'est une question d'éducation, de sensibilisation des populations. Et peut-être la nourriture que je mange là, elle est plus saine que le hamburger que vous m'amèneriez d'Europe.
Voilà, Lapodini, Marc Atuga, donc commissaire de la CDAO pour l'agriculture. Alors, on reviendra, Jimmy Adams, sur les questions d'APE, d'accord de partenariat économique, plus tard dans l'émission, mais sur cette allégorie, le mil ou le sorgho ouest-africain, plus sain que le hamburger européen ou américain, c'est un peu aussi là le problème, c'est que les Africains ont envie de consommer autre chose que les produits vivriers traditionnels.
Il a parlé de deux éléments extrêmement importants, la pluie et le commerce. Par rapport à la pluie, par rapport à l'autosuffisance alimentaire, si on ne produit que pendant la saison des pluies, on est sans activité pendant 9 mois sur 12. Et dans la mesure où c'est connu, c'est un fait, les pluies sont raréfiées, nous n'arrivons pas à produire suffisamment pour notre autosuffisance alimentaire. Donc il faut aller chercher de l'eau, l'eau pour l'irrigation, afin que nous puissions produire en contre-saison, s'autosuffire suffisamment pour transformer et créer de la richesse.
Vous trouvez des semences qui ont moins besoin d'eau.
Oui, j'en arrive. Le commerce. Le commerce, l'Afrique, entre elles, elle commerce, je crois, pas plus de 10, 12 à 13, 14%. Mais on ne peut pas créer de richesse si on ne peut pas favoriser le commerce intra-pays. À cela s'ajoute le fait que, en moyenne, chacun de ces pays envoie ailleurs 100 à 200 milliards de francs CFA par an pour importer. Donc, compte tenu du fait que, un, les pluies se raréfient, il faut qu'on aille en irrigation. Compte tenu du fait que nous avons ce marché-là national, on n'a même pas besoin de parler du marché international parce que les 100 à 200 milliards peuvent être captés en interne. Si nous allons dans le sous-sol chercher de l'eau et produire en abondance, nous pouvons empêcher nos pays d'envoyer 100 à 200 milliards ailleurs.
Mais Jimmy Adams, je ne sais pas vous que j'incrimine, mais les problèmes de changement climatique, on les connaît depuis 10 ou 20 ans, maintenant ils sont au devant de l'actualité. Le fait qu'il n'y ait pas de pluie dans zone sahélienne, ça fait 30 ou 40 ans qu'on le sait. Pourquoi est-ce qu'on se dit seulement maintenant, en 2014, qu'il faut forer des puits pour pouvoir irriguer les terres arables de la zone sahélienne?
Parce que c'est les gens ont le dos au mur. La plus simple question, c'est que les gens ont le dos au mur. Plus à cela s'ajoute le fait que nous avons des étudiants qui sortent des instituts, des universités à la recherche de l'emploi. Nous avons une croissance démographique extrêmement élevée et une croissance économique qui traîne. Donc, le luxe de dire, oui, ben, ça fait 30 ans, 40 ans, on connaît plus ou moins ce qui se passe. On a le dos au mur, il faut trouver des solutions innovatrices pour s'attaquer à ces problèmes.
Alors, je vous propose à présent d'écouter quelqu'un qui est directement concerné par ces questions. C'est un paysan que beaucoup connaissent. Il s'agit de Mamadou Sissoko, qui est le porte-parole des paysans en Afrique de l'Ouest. Hein. Il est le président d'honneur du ROPA, le réseau des organisations paysannes et des producteurs de l'Afrique de l'Ouest.
Il y a encore une faible prise de conscience des gouvernants pour savoir que l'alimentation est d'abord politique. C'est-à-dire que c'est la volonté politique qui s'exprime par la caisse. Il y a des pays, je crois que si vous posez la question aux autorités, ils vont vous le dire, qui n'ont pas 1000 tonnes de réserves alimentaires. Comment un pays qui est de surcroît sahélien peut se permettre de ne pas avoir un stock de sécurité? Tout le monde est d'accord que par un stock, on ne va pas faire 50% du besoin d'un pays ou même 30%. Par exemple, dans les pays où on dit qu'il n'y a pas beaucoup de problèmes, vous, ici en France, en Europe, aux États-Unis, etc., vous avez une satisfaction de 90% de vos besoins alimentaires. Vous échangez 10%. Chez nous, c'est le contraire. Et ça, c'est quand même dangereux. C'est un crime contre les populations. Alors, si on est dans une zone où, bon an, mal an, on sait à peu près qu'il y aura des problèmes, le premier acte, c'est d'abord de renforcer les mesures d'information et de communication pour ne pas faire des choses n'importe comment. Donc, ce réseau-là est fondamental. Mais le deuxième, c'est chaque année de budgétiser pour pouvoir mettre un stock de sécurité. Et la région aussi. doit faire un stock de sécurité. Parce que ce que nous savons et que tout le monde sait, la première souveraineté, elle est alimentaire. Et la preuve, quand on parle de 12 ou 16 millions de gens en insécurité alimentaire dans une région, c'est quoi ça? C'est la population d'un pays pratiquement. Alors vous vous rendez compte, et c'est chaque année. Voilà, donc ce qui n'est plus normal, ce qui n'est plus acceptable, ce que nous dénonçons, c'est qu'il y a le statu quo. On avait dit que les informations n'étaient pas disponibles, à temps c'est réglé. Les gens savent, il y a toujours des zones excédentaires et des zones déficitaires. Donc il n'y a plus d'excuses pour qu'on mette des stocks de sécurité. Les stocks de sécurité, ça peut être décentralisé dans les zones communautaires, mais toujours dans une organisation planification publique et que les ressources publiques viennent.
Voilà, Mamadou Sissoko, donc le représentant du Europa qui appelle de ses voeux un stock alimentaire. Ça tombe bien, Djimadoum, puisque c'est en cours de constitution, ce stock d'urgence, d'appui. Mamadou Sissoko disait 10 à 12 millions de personnes en situation d'insécurité alimentaire. C'est quoi? C'est l'équivalent du Sénégal ou du Niger à peu près, qui chaque année est menacé de cette crise-là sur une zone totale de 140 millions d'habitants. Hein. La zone SILS, si je puis dire, c'est 140 millions d'habitants, donc c'est quand même 10% de cette population. Le stock qui t'en passe d'être constitué, qu'est-ce que ça va être exactement? Comment ça va fonctionner?
Par rapport au stock de sécurité alimentaire, c'est peut-être un petit outil dans l'ensemble du dispositif que les pays africains, les membres du CIS, de la CEDEAO et de l'UEMOA, doivent maintenant mettre sur pied. C'est-à-dire le stock de sécurité, c'est de manière ponctuelle, n'est-ce pas, qui va être activé pour répondre à ce besoin-là. Mais on revient aux situations structurelles qui font que, justement, vous l'avez dit il y a 5 minutes, mais ça fait 30 ans qu'on sait que le changement climatique arrive. Pourquoi est-ce qu'on maintenant, comme nous avons le dos au mur, et comme il y a des initiatives maintenant qui sont novatrices, c'est-à-dire on dit, on va à l'irrigation, il faut aller à l'irrigation, il faut sortir cette eau-là, il faut développer des outils pour pouvoir la gérer et il faut l'utiliser à bon escient pour produire. Produire suffisamment pour manger, le stock va rester. Il n'est pas interdit d'avoir son stock de sécurité alimentaire. Mais alors, il faut s'attaquer aux régions les plus vulnérables afin que nous puissions aider ces gens-là qui ont toujours besoin peut-être de ce stock alimentaire de s'auto-suffire afin qu'elles puissent être résilientes. 10%, c'est un peu trop. 14 millions. De l'espace SILS, UMOCDA.
Les chiffres qu'on a donnés cette semaine à Réunion, c'est 5 millions qui, à l'heure actuelle, sont menacés, oui. Et qui peut, puisqu'on arrive à la période de soudure, monter jusqu'à peut-être 8 à 10 millions.
Oui, donc de mai à septembre, on va s'assurer à ce que ces populations qui sont vulnérables ne tombent pas en situation de crise. Maintenant, le stock de sécurité alimentaire, si jamais il arrive à être activé, on l'active. Mais entre-temps, il faut s'éloigner de cette situation-là en développant des technologies qui puissent nous aider à s'en sortir.
Néanmoins, j'aimerais que vous expliquiez sur nos auditeurs, ce stock, il va être à peu près de 400 000 tonnes de céréales, si j'ai bien compris. Il sera financé comment? Dans quelle zone va-t-il se trouver? Est-ce que chaque pays aura son stock?
Chaque pays peut avoir son stock. Le stock, il est financé par le CEDEAO à raison de 25 millions de dollars. L'Union européenne va mettre, je crois, 50 à 58 millions de dollars. Pour avoir la réserve régionale, mais ça dit aussi qu'il faudrait une politique de proximité. C'est-à-dire, si le stock doit être à Ouaga, alors que le problème va se poser à Conakry, ainsi de suite, vous savez bel et bien qu'on va avoir des problèmes. Donc, il faudrait des sous-stocks, n'est-ce pas, qui dépendent tous du grand mécanisme, mais que ces sous-stocks-là doivent être pris, comme je le disais tantôt, comme mesure ponctuelle, mais qu'entre-temps, nous allons développer ce qu'il faut pour sortir de cette phase-là.
C'est la fin de la première partie d'Éco d'ici, Éco d'ailleurs. On se retrouve avec notre invité, donc le secrétaire exécutif du CILS, Djimé Adoum, dans 3 minutes exactement, après un flash d'informations sur RFI.